Bonjour et bonjour Yves au micro de Divergence FM pour une nouvelle émission de 24 notes secondes qui ne saurait faillir à sa longue tradition en rappelant ou en apprenant à ceux qui nous rejoignent. Bienvenue, welcome et tout ce genre de choses, que 24 notes secondes est une émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale les petites images qui bougent une fois agrandies. Mais enfin, vous connaissez le principe sur les grands écrans et un peu partout depuis 1895 et des poussières. Ce jour, dans 24 notes secondes, eh bien, pas de réalisateur, de compositeur, d'acteur ou actrice évoqué, mais nous allons évoquer par contre quelques films consacrés à des grandes figures scientifiques à l'écran, quelques grands savants représentés avec plus ou moins d'acuité. Les rapports entre la science et le cinéma ne sont pas toujours des meilleurs, donc représentés avec de plus ou moins d'acuité au cinéma. Et nous allons commencer en écoutant la bande originale d'un film tourné en 1962 par rien moins que John Huston et qui se voulait une évocation de la vie de Sigmund Freud. Alors j'entends déjà ceux qui ne mettront pas Sigmund Freud dans la catégorie des savants, ma foi je les laisse à leurs polémiques qui ont leur intérêt, mais pour le besoin de l'émission, nous allons faire comme si. Et donc Sigmund Freud était interprété dans ce film de John Huston par Montgomery Clift. Montgomery Clift, certainement l'un des acteurs les plus tourmentés d'Hollywood des années 50 ou 60. Un acteur en très très mauvaise santé physique et mentale. Et c'est d'ailleurs ainsi que John Huston évoqua le tournage très difficile de ce film, tout en reconnaissant après que, après tout, ce n'était pas forcément non pertinent d'avoir pour tourner un film sur Sigmund Freud un acteur lui-même névrosé. Au scénario de ce film, on avait John Huston, Wolfgang Reinhardt, peu connu, et puis on avait aussi, mais il refusa que son nom figurât au générique, rien moins que Jean-Paul Sartre, le grand romancier, philosophe, homme, etc. De ces années-là, Jean-Paul Sartre, qui d'ailleurs publia quelques années plus tard son propre scénario d'un film à faire sur Sigmund Freud, que bien évidemment, il ne tourna jamais. La musique de ce film, elle était signée de Jerry Goldsmith, dont les aficionados de 24 notes secondes savent que c'est mon compositeur préféré. Donc on s'en écoute sans plus attendre un petit extrait. Freud, Passion secrète, ça s'appelait en français, dans 24 notes secondes. l'étrange musique de Jerry Goldsmith pour un extrait de la bande originale de Freud, Passion secrète, Freud, The Secret Passion, un film de John Huston tourné en 1962 avec Montgomery Clift dans le rôle de Sigmund Freud pour une évocation des scientifiques à l'écran qui se poursuit avec un film de 1973, un film de Giuliano Montaldo qui s'appelait Giordano Bruno, avec dans le rôle principal celui de Giordano Bruno, Gian Maria Volonté. Giordano Bruno, je vous le rappelle ou je vous l'apprends, c'est comme vous voulez. Eh bien, c'est un scientifique du XVIe siècle, né en 1548, mort en 1600. Donc oui, c'est bien du XVIe siècle, qui poursuivit les travaux notamment de Nicolas Copernic sur l'idée que c'était bien la Terre qui tournait autour du Soleil, et non pas l'inverse, comme la religion catholique, notamment l'Église catholique, voulait le faire croire. Autant dire qu'à l'époque, ça sentait le soufre et que, de fait, Giordano Bruno connut une existence relativement tourmentée, puisque non seulement il prétendait que la Terre tournait autour du Soleil, mais aussi que Jésus-Christ n'était pas Dieu, mais un simple, je cite, mage habile, que Satan serait finalement sauvé. Bref, 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 tout cela sentait le fagot, comme l'on disait à l'époque, et de fait, c'est bien ce qui arriva, puisque le brave homme fut brûlé vif pour ses convictions le 17 février 1600 sur une place romaine. À l'époque, dans les années 70, eh bien, on tournait en Italie beaucoup de films politiques qui dénonçaient l'emprise d'un État corrompu ou d'une Église trop présente. Ma foi, c'était en 1973 et on va écouter un extrait de la bande originale de ce film. Elle était signée de rien moins que d'Ennio Morricone. Un film donc de Giuliano Montaldo pour une bande originale dans 24 notes secondes. La partition morriconesque en diable de Giordano Bruno. Alors là, c'est vraiment de la quintessence d'Ennio Morricone. Donc pour le Giordano Bruno, tourné, pardonnez-moi, en 1973 par Giuliano Montaldo, un film qui évoquait donc la vie et la mort d'un savant brûlé vif pour ses convictions par l'Église catholique. Je vous répète comme ça, juste pour que vous soyez bien au courant. Et nous allons continuer avec un film tourné cette fois en 1999 ou quelque chose de ce genre. Je suis troublé par les bûchers, mais ça doit être à peu près ça. Non, 2001, excusez-moi, j'avais un petit doute. Hein. 2001, ça s'appelait A Beautiful Mind in English. Un homme d'exception en français. Allez savoir pourquoi. Et ce film, qui avait comme acteur principal Russell Crowe, évoquait la vie de John Forbes Nash Jr. Pourquoi Jr., je ne sais pas. Un brillant savant, très connu pour sa théorie économique des jeux, et qui reçut en 1994 le prix Nobel d'économie, dont les puristes, et ils auront raison, feront remarquer qu'il ne s'agit pas vraiment d'un prix Nobel, de même que l'économie n'est pas vraiment une science non plus. Mais enfin, ce qui intéresse surtout, c'est que tout en étant un brillant sujet, eh bien John Forbes Nash Jr. était aussi schizophrène, ce qui lui faisait voir des espions russes partout, et ce qui était, il faut bien le reconnaître, et un sujet en or pour le cinéma, et un rôle en or pour Russell Crowe, et aussi une occasion pour le réalisateur Ron Howard, bien connu pour ses super productions, eh bien, de filmer la vie d'un savant. Ma foi, personne ne s'y trompe pas, puisqu'en 2002, le film obtint l'Oscar du meilleur film, l'Oscar du meilleur réalisateur, l'Oscar du meilleur scénario, pas celui du meilleur acteur, mais celui de la meilleure actrice pour un second rôle, en l'espèce la femme de John Forbes, etc., alias Russell Crowe, interprétée par la délicieuse Jennifer Connelly. Quand je vous aurais dit qu'il y avait aussi Christopher Plummer, qu'il y avait aussi Ed Harris et plein d'autres que je ne vous citerai pas, eh bien, je vais plutôt vous laisser à la musique. Elle était signée de James Horner, un homme d'exception, a beautiful man. C'est tout moi, ça, dans 24 notes secondes. Voilà un extrait de la bande originale d'un homme d'exception, c'est mieux, une musique de James Horner, un film de Ron Howard, connu notamment pour être le réalisateur du Da Vinci Code au cinéma, je veux dire, un film qui mettait en vedette Russell Crowe, ma foi, l'excellent, le solide Russell Crowe dans le rôle de John Forbes Nash Jr. Pourquoi Junior ? Je vous dis, je ne sais pas. Qui reçut en 1994 le prix Nobel d'économie, mais qui est, je suppose qu'il est toujours parmi nous, schizophrène, ce qui fait que sa vie fut du plus difficile. Alors le film prenait quand même certaines libertés avec la vie du susdit John Nash, notamment pour avoir lu sa biographie. Il se trouve que dans le film, il avait une femme, alors que dans la vie, il en avait deux. Parfois, ça n'a rien de particulièrement détestable, mais par contre, dans un film hollywoodien, avec la volonté hagiographique, ça le fait un peu moins, et du coup, on prend certaines libertés qui font tout le charme de cette morale un peu bizarre des blockbusters hollywoodiens. Nous poursuivons donc notre évocation, alors là, on va rester dans la morale un peu bizarre, nous poursuivons notre évocation des scientifiques à l'écran en évoquant cette fois un film sorti en 2014 qui s'appelle en anglais et en français aussi Imitation Game, un film réalisé par Morten Tildum, duquel, je l'avoue, j'ignore tout, et dans les rôles principaux duquel on retrouvait Benedict Cumberbatch, mieux connu sans doute pour être le Sherlock d'une célébrissime série anglaise, et la délicieuse Keira Knightley, pour un film donc qui était l'évocation à l'écran de la vie, ou plutôt d'une partie de la vie d'Alan Turing, dont un texte en fin de film rappelle qu'il est fort peu connu, alors qu'en fait il devrait l'être. Et de fait, Alan Turing, qui fut un pionnier d'une science qu'on n'appelait pas encore celle des ordinateurs, fut pendant la guerre à la tête d'un projet secret qui visait à percer les codes secrets utilisés par l'armée allemande pour la transmission de leurs messages. Alors la machine qui permettait aux Allemands de coder leurs messages s'appelait Enigma, un nom tout à fait prédestiné pour une machine et un code tout à fait difficile à briser. Et le film raconte donc les efforts d'Alan Turing et de quelques autres pour briser le code. Efforts qui se traduisent par l'invention d'une machine que beaucoup considèrent comme être le premier ordinateur au monde. Efforts dont je n'ai pas besoin de vous le dire, puisqu'il s'agit d'un film hollywoodien, effort couronné de succès. De fait, Alan Turing et son équipe brisèrent le code Enigma, mais c'est là où l'histoire est parfois tragique. Pendant 2 ans, les Anglais et les Américains s'efforcèrent de faire comme si non, c'est-à-dire de façon à persuader les Allemands qu'ils pouvaient continuer à émettre et donc à utiliser avec parcimonie le pouvoir qui leur était accordé, ma foi. Cela permit de sauver des vies, cela permis aussi de ne pas en sauver certaines, mais c'était la guerre, comme l'on dit. Ma foi, on ne peut pas dire que le film était forcément très convaincant quant à l'évocation de cet épisode. Il était un peu chromo, d'autant plus que, et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de morale, le brave Alan Turing était homosexuel et que dans les années 40-50, surtout en Angleterre, ma foi, ce n'était pas bien vu. Et c'était si mal vu que Alan Turing, certainement l'un des plus grand scientifique des années 40-50, se trouva acculé au suicide le 7 juin 1954 à l'âge de seulement 41 ans. La légende ou l'histoire, je ne sais trop, veut qu'il ait mangé une pomme empoisonnée comme dans Cendrillon ou dans La Belle au bois dormant. Je ne me souviens plus, ma foi. Je ne sais trop, mais en tout cas, avec lui disparaissait un homme. Par contre, commençait un mythe, puisque Alan Turing, c'est aussi l'initiateur du test de Turing, encore largement utilisé pour savoir si les machines, un jour ou l'autre, seront aussi intelligentes que nous. Précaution peut-être superflue, puisque un jour ou l'autre, nous serons devenus aussi bêtes que les machines. Allez, on s'écoute un petit extrait de cette bande originale, surtout qu'elle est signée de notre chéri Alexandre Desplat, qui fut nominé à l'Oscar pour cette partition et il le remporta. Oui, Oscar, on t'aime, pour une autre bande originale, elle aussi nominée, celle de Grand Budapest Hotel. En tout cas, Alexandre Desplat, c'est le plus grand aujourd'hui et il est français. Et pour une fois, on l'aime dans 24 notes secondes. Voilà un extrait de la bande originale d'Imitation Game, un film de Morton Tilden tourné en 2014, une bande originale signée de notre Alexandre Desplat national. Et comme j'ai été trop long, comme d'habitude, eh bien on va se quitter rapidement, là encore en musique, en écoutant un extrait de la bande originale d'un film de James Marsh, tourné cette même année 2014. Ça s'appelle Une merveilleuse histoire du temps. C'est l'évocation à l'écran de la vie du grand cosmologiste Stephen Hawking. La bande originale, elle est signée de Johan Johansson. Et on s'en écoute. Et je vous dis au revoir maintenant, un large extrait.